à l'antenne du FM 93.1, 92.1. Voici vos informations.
Information en ce jeudi 21 mars, le RIFT annonce que la Biennale internationale d'art miniature sera reportée à 2025. Émilie Bécôté, co-directrice générale et directrice des arts au RIFT, explique ce qui motive cette décision.
Depuis que la Biennale existe, il y a souvent beaucoup les mêmes problèmes qui reviennent. C'est un événement qui est très lourd à organiser. On peut compter là, sur la participation de bénévoles, mais la réalité, c'est qu'on est une très petite équipe et pour plusieurs raisons, entre autres aussi de financement. Et pour se mettre à jour dans nos façons de faire aussi, on a décidé en fait de reporter la Biennale à 2025 et en fait, c'est qu'on va complètement revamper son identité.
Plusieurs changements seront apportés.
C'est un chantier qui est en construction encore, mais on prévoit là, vraiment modifier l'événement, modifier nos façons de faire aussi, parce qu'on se rappelle que c'était un événement qui était une exposition concours, donc les artistes devaient payer pour participer à cet événement-là. Et c'est une pratique qui est de moins en moins bien perçue là, par nos bailleurs de fonds dans le milieu culturel, par les artistes aussi, et on est quand même d'accord, nous, au RIFT, là, que les artistes devraient être payés pour présenter leur travail. C'est un métier. On veut respecter le métier d'artiste. Et étant donné qu'on fait un grand changement dans cette formule-là, ben on doit prendre du temps pour aller chercher des sources de financement qui vont nous permettre de payer les artistes qui vont participer à la Biennale.
Une des raisons de ce changement est que le Conseil des arts et des lettres du Québec ne reconnaissait pas la Biennale internationale des arts miniatures comme étant un événement professionnel.
Bien, en fait, aux yeux du Conseil des arts et des lettres du Québec, la formule concours posait problème et ça respectait pas le métier d'artiste. Donc, c'était pas un événement qui était financé par le CALQ. Donc, on se tournait beaucoup vers des commanditaires. Et on le sait, en ce moment, les temps sont durs pour tout le monde. Donc, les commanditaires semblaient un peu moins au rendez-vous pour la prochaine édition. Et donc, on en profite pour réfléchir la formule, peut-être pour changer un peu d'identité aussi, vraiment pour marquer une nouvelle époque.
La nouvelle formule de l'événement sera dévoilée à l'automne 2024 lors d'un point de presse au centre d'exposition du RIFT. L'appel des artistes suivra au début du mois de décembre. Le poste de conseillère ou conseiller district numéro 4 est ouvert aux candidatures dans la municipalité de Saint-Bruno-de-Guigues. Les déclarations de candidature doivent être produites au bureau du président d'élection, M. Serge Côté, du 22 mars au 5 avril de 8h30 à midi et de 13h à 16h30. À noter que le vendredi 5 avril, le bureau sera ouvert de 9h à 16h30 de façon continue. Si plus d'une personne pose sa candidature, les électeurs du district numéro 4 pourront exercer leur droit de vote en se présentant au bureau de vote le dimanche 5 mai de 10h à 20h. Le vote par anticipation se fera le dimanche 28 avril de midi à 20h. Seuls les électeurs du district pourront voter, mais il n'est pas nécessaire d'habiter ce dernier pour se porter candidat. Pour pouvoir déposer sa candidature, les personnes doivent être inscrites sur la liste électorale municipale, résider sur le territoire de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois à la date de la publication de l'avis d'élection et avoir 18 ans accompli le jour du scrutin. Le ministre Bernard Drainville aurait avantage à préciser le fonctionnement du tableau de bord qu'il veut implanter pour le système d'éducation. Plusieurs voix se sont élevées cette semaine pour se plaindre du classement des écoles, craignant qu'on mélange à la fois les écoles publiques des quartiers défavorisés des écoles privées, par exemple. Selon notre chroniqueur Marc Lemay, le futur tableau regroupera les indicateurs clés d'écoles de même niveau, ce qui permettra d'évaluer quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qui peuvent y être apportées. Cependant, pour faire comprendre sa mécanique à la population, le ministre Drainville devra faire plus de pédagogie.
Toutes les écoles défavorisées dans des milieux difficiles, ben là, ils seraient dans le même palmarès et il y aurait des solutions qui seraient apportées. Comment ils ont fait pour faire ci, comment ils ont fait pour faire ça. On est loin d'avoir un palmarès des écoles en provenance du ministère de l'Éducation.
Et l'organisme à but non lucratif Éco-Entreprise Québec annonce les partenariats conclus en Abitibi-Témiscamingue et dans le nord du Québec qui rendra l'organisme responsable de la planification, de l'encadrement et du financement du système de collecte sélective. Les ententes visent l'organisme avec Rouyn-Noranda, Chibougamau, Matagami et la MRC de Témiscamingue, ce qui représente près de 67 000 personnes. La collaboration avec les élus de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec est destinée à optimiser l'éco-système système de la collecte sélective en introduisant des opérations rationalisées et en améliorant l'efficacité logistique tout en maintenant une approche centrée sur le citoyen. Ces nouvelles ententes s'inscrivent dans une série de plus de 70 conclues avec des organismes municipaux au cours des dernières semaines, ce qui représente plus de 70 % de la population québécoise. Jusqu'à présent, l'organisme s'est entendu avec des organismes municipaux représentant près de 700 municipalités et près de 6 millions de citoyens au Québec. Il est prévu qu'à compter du 1er janvier 2025, Éco-Entreprises Québec assumera la totalité des coûts de collecte et de transport des contenants, emballages et imprimés récupérés par la collecte sélective dans tout le Québec. Ça complète votre bulletin d'information régionale. Vous écoutez CKVM, la voix du Témiscamingue.